je me souviens. Deux ans plus tôt. Paris, 21 novembre 2011. Métro Solferino, 7e arrondissement. Le souffle court, je monte péniblement les marches de la station. En haut des escaliers, je reçois en plein visage une rafale humide. J'ouvre mon parapluie face au vent pour éviter qu'il ne se retourne. Je suis enceinte de 7 mois et demi et j'ai rendez-vous à la clinique avec Rose May, la sage-femme qui doit m'accompagner lors de mon accouchement. Le mois de novembre n'a été qu'un long tunnel sombre et pluvieux. Ce début d'après-midi ne fait pas exception. Je presse le pas. Les façades blanches de la rue de Bellechasse brillent sous l'averse. J'ai les pieds gonflés, le dos en compote, des douleurs dans les articulations. Je vis difficilement la prise de poids qu'occasionne la grossesse. Je suis devenue tellement grosse que j'ai besoin que Paul m'aide à attacher mes chaussures. Les pantalons me cisaillent le bas du ventre. Je suis condamnée à ne porter que des robes. Mes nuits sont courtes et chaque fois que je veux sortir du lit, je suis obligée de rouler sur le côté avant de poser mes pieds par terre. Pour ne rien arranger, depuis quelques jours, j'ai de nouveau des nausées et des coups de fatigue me terrassent à l'improviste. Heureusement, il n'y a que 200 mètres entre la sortie du métro et la rue Las Cases. En moins de 5 minutes, j'ai rejoint la clinique. Je pousse la porte, me signale à l'accueil et, sous le regard désapprobateur des autres patients, m'offre un café au distributeur de la salle d'attente. Je suis fourbu. Mon ventre sursaute comme si de grosses bulles éclataient, comme si de petites vagues déferlaient à l'intérieur, ce qui amuse beaucoup Paul lorsque ça arrive à la maison. Pour ma part, c'est plus compliqué. La grossesse est un état incroyable, magique, mais je n'arrive pas à m'y abandonner. Mon excitation est toujours contrariée par une inquiétude sourde, un mauvais pressentiment et des interrogations douloureuses. Je ne sais pas si je vais être une bonne mère. J'ai peur que mon enfant ne soit pas en bonne santé. Je crains de ne pas savoir m'en occuper. Depuis une semaine, je suis théoriquement en congé maternité. Paul a accompli sa part du travail en montant la chambre du bébé et en installant le cosy dans ma voiture. Moi, j'avais prévu de faire plein de choses. Acheter les premiers vêtements, une poussette, une baignoire, des produits de soins et de toilettes. Mais j'ai sans cesse remis ces projets à plus tard. La vérité, c'est que je n'ai jamais vraiment arrêté de travailler sur l'enquête. Mon enquête. Celle de ces 4 femmes étranglées dans l'ouest de Paris. C'est mon groupe qui avait été chargé de résoudre le premier meurtre, mais nous avons échoué. Depuis, l'affaire est devenue trop importante et nous a échappé. J'ai été mise sur la touche, mais je reste bloquée sur ces visages figés dans l'horreur. J'y pense tout le temps. Une obsession qui pollue ma grossesse et m'empêche de me projeter vers demain. Je ressasse toujours les mêmes images, mouline les mêmes hypothèses, me perds en conjectures, reprends inlassablement le fil de l'affaire. Le fil. Trouver le fil invisible qui relie Clara Mathurin, Nathalie Roussel, Maude Morel et Virginie André. Même si personne ne l'a encore repéré, le lien existe forcément. Ces 4 femmes ont quelque chose en commun qui, pour l'instant, a échappé à tous les enquêteurs. Même à moi. Surtout à moi. Je sais qu'une évidence se cache sous mes yeux et cette certitude me bousille la vie. Si on ne l'arrête pas, l'homme va continuer à tuer. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il est prudent, invisible, insaisissable. Il ne laisse aucune trace, ni empreinte, ni ADN. Personne ne peut expliquer pourquoi les 4 victimes lui ont ouvert la porte sans se méfier à 1 heure déjà bien avancée de la soirée. Nous n'avons rien, à part un vague témoignage évoquant un individu portant un casque noir et s'enfuyant en scooter à 3 roues, comme il en existe des milliers en région parisienne. Nouveau café au distributeur. Ah, il y a des courants d'air, il fait froid. Mes mains entourent le gobelet à la recherche d'un peu de chaleur. Les yeux dans le vague, je me repasse pour la millième fois le film des événements, me récitant l'enchaînement des faits comme un mantra. 4 victimes. 4 femmes, vivant seules. 3 célibataires et 1 mère de famille divorcée. Un même périmètre géographique. Un même mode opératoire. Pendant longtemps, les journaux ont surnommé le meurtrier le tueur voleur de téléphone. Les flics eux-mêmes pensaient au début qu'ils dérobaient le cellulaire de ses victimes pour effacer certaines traces compromettantes, des appels, des films, des photos. Mais cette hypothèse ne tenait pas la route. Certes, les smartphones de la 2e et de la 3e victime étaient restés longtemps introuvables, mais contrairement à ce qu'avait raconté la presse, ce n'était le cas ni pour la 1ère victime, ni pour la dernière. Et si l'appareil de l'hôtesse de l'air n'avait jamais été localisé, celui de l'infirmière avait simplement été oublié dans un taxi. Je regarde mon propre téléphone. J'y ai téléchargé des centaines de photos des 4 victimes. Pas celles morbides des scènes de crime, mais des images de leur vie quotidienne récupérées sur leurs ordinateurs. Je fais défiler les clichés pour toujours revenir à ceux de Clara Mathurin. La 1ère victime, l'institutrice. Celle dont peut-être je me sens la plus proche. L'une des poses me touche particulièrement. C'est une traditionnelle photo de classe, datée d'octobre 2010, prise dans la cour de récréation de l'école. Tous les élèves de la grande section de maternelle de l'école Joliot-Curie sont regroupés autour de leur maîtresse. L'image est pleine de vie. Les bouilles des enfants me fascinent. Certains sont très sérieux, tandis que d'autres font les pitres, fou rire, doigts dans le nez, oreilles d'âne. Au milieu d'eux, Clara Mathurin arbore un sourire franc. C'est une jolie femme, que l'on devine discrète, aux cheveux blonds coupés au carré. Elle porte un imperméable mastic ouvert sur un tailleur pantalon assez élégant et un carré de soie Burberry dont on reconnaît le célèbre imprimé. Une tenue qu'elle devait particulièrement apprécier puisqu'on la retrouve sur d'autres clichés. Lors du mariage d'une copine, en mai 2010 en Bretagne, lors d'un séjour à Londres, en août de la même année, et même sur sa dernière photo, capturée quelques heures avant sa mort par une caméra de surveillance de la rue de la Faisanderie. Je passe d'une pose à l'autre pour y retrouver chaque fois la même tenue fétiche. Un père, tailleur de working girl, foulard Burberry enroulé comme un chèche. Alors que je m'arrête plus longuement sur la dernière, un détail me saute aux yeux pour la première fois. Le foulard n'est pas le même. Avec 3 doigts, je zoome sur l'écran tactile pour m'en assurer. La résolution de la caméra de surveillance a beau être mauvaise, je suis pratiquement certaine que l'imprimé est différent. Le jour de sa mort, Clara ne portait pas son foulard fétiche. Je sens un léger frisson me traverser. Un détail sans importance ? Mon cerveau se met pourtant en marche, essayant de rationaliser la chose. Pourquoi Clara Mathurin avait-elle changé de foulard ce jour-là ? Peut-être l'avait-elle prêté à une amie ? Peut-être l'avait-elle déposé au pressing ? Peut-être l'avait-elle perdu ? Peut-être l'avait-elle perdu ? Maud Morel, la 2e victime, avait également perdu quelque chose. Son téléphone, que l'on avait finalement retrouvé dans un taxi. Et le portable de Nathalie Roussel, que l'on avait toujours cru voler. Peut-être l'avait-elle perdu, elle aussi ? Perdu. 2 téléphones, un foulard. Et Virginie André, qu'avait-elle perdu ? La vie. Mais encore. Je quitte les albums photos de mon téléphone pour basculer en mode appel et compose le numéro de Seymour. Salut, c'est moi. Concernant le meurtre de Virginie André, tu sais si quelque part dans la procédure il est fait mention d'un objet qu'elle aurait égaré récemment ?
Alice, tu es en congé, bordel. Occupe-toi de préparer la venue de ton bébé.
J'ignore ses reproches. Tu t'en souviens ou pas ?
Non, je n'en sais rien, Alice. On ne bosse plus sur cette affaire.
Tu pourrais chercher le numéro de son ex-mari ? Balance-le-moi sur mon portable, je lui poserai moi-même la question.
D'accord,
soupire-t-il.
Merci, vieux.
3 minutes après avoir raccroché, un SMS de Seymour s'affiche sur mon écran. J'appelle Jean-Marc André dans la foulée et laisse un message sur son répondeur, lui demandant de me contacter le plus vite possible.
Madame Schaeffer, vous êtes encore venue à pied,
m'interpelle Rose May en me faisant les gros yeux. C'est une réunionnaise corpulente, au fort accent créole, qui, chaque fois que je viens la voir, me passe un savon comme si j'étais une petite fille.
Mais non, voyons,
dis-je en la suivant dans l'une des salles du 3e étage où elle donne ses cours de préparation à l'accouchement. Elle me demande de m'allonger, puis prend le temps de m'examiner, m'assure que le col est toujours bien fermé, qu'il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré. Elle est satisfaite de constater que le bébé s'est retourné et qu'il n'est plus en siège.
La tête est bien positionnée en bas et le dos du bébé est à gauche. C'est la position idéale. Il a même commencé à descendre un peu.
Avec 2 sangles, elle installe des capteurs sur mon ventre nu et branche le monitoring qui enregistre le rythme cardiaque du bébé et les contractions utérines. J'entends les battements du cœur de mon fils. Je suis ému. Mes yeux s'embuent, mais en même temps un frisson d'angoisse me serre la poitrine. Puis Rose May m'explique la marche à suivre lorsque je commencerai à ressentir des contractions, normalement d'ici 4 à 5 semaines.
Si elles ont lieu toutes les 10 minutes, prenez du space-fond et attendez une demi-heure. Si la douleur est passée, c'est qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Si elle persiste et que...
Je sens mon téléphone vibrer dans la poche de ma parka, non loin de moi. J'interromps la sage-femme, me redresse et me penche pour me saisir du cellulaire.
Jean-Marc André,
annonce la voix dans l'appareil.
En interrogeant mon répondeur, j'ai...
Merci de me rappeler, monsieur. Je suis le capitaine Schaeffer, l'un des officiers de police chargés de l'enquête sur le meurtre de votre ex-femme. Vous souvenez-vous si, dans les jours qui précédaient sa mort, elle avait perdu quelque chose ?
Perdu quoi ?
Je ne sais pas, justement. Un vêtement ? Un bijou ? Un portefeuille ?
Quel rapport avec son meurtre ?
Peut-être aucun, mais il faut exploiter toutes les pistes. Une histoire d'objet égaré, ça ne vous dit rien ?
Il marque un temps de réflexion, puis...
Eh bien, si, justement.
Il s'interrompt au milieu de sa phrase. Je sens que sa voix est saisie par l'émotion, mais il se reprend et explique...
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes disputés la dernière fois qu'elle m'a laissé notre fils. Je lui reprochais d'avoir égaré l'ours en peluche de Gaspard, un doudou sans lequel il ne parvient pas à s'endormir. Virginie prétendait avoir perdu le jouet au parc Monceau. Elle m'a parlé du service des objets trouvés, mais...
Les objets trouvés. Je sens mon cœur s'accélérer dans ma poitrine. De l'adrénaline pure.
Attendez, monsieur André. Je veux être certaine de bien comprendre. Virginie s'est rendue elle-même aux objets trouvés ou elle comptait s'y rendre ?
Elle m'a dit qu'elle y était déjà allée et qu'elle avait rempli une fiche pour qu'on la prévienne si la peluche était retrouvée.
Je n'en crois pas mes oreilles.
D'accord. Merci. Je vous rappelle si j'ai du nouveau.
Je retire les électrodes, me lève et me rhabille dans la précipitation.
Je suis désolée, Rosemay, mais je suis obligée de partir. Non, ce n'est pas sérieux, Madame Schaeffer. Dans votre état, vous ne...
J'ai déjà poussé les battants de la porte et je suis dans l'ascenseur. Je décroche mon téléphone pour appeler un taxi. Je l'attends dans le hall en trépignant. C'est mon enquête. Mon orgueil refait surface. Je pense à ces 10 dizaines de flics à la criminelle qui ont épluché les emplois du temps de toutes les victimes et qui sont peut-être passés à côté de quelque chose de primordial. Quelque chose que moi, je viens de trouver.